Ouais, mais ça devait être au bas, n'est-ce pas, Elisa?
Ben voilà, je ne serais pas de ceux-là. J'imagine qu'ils sont pleins de talent, mais j'aime beaucoup trop mon lit pour me lever à 5h30. Il faudrait vraiment un très, très bon incitatif, là, beaucoup de chocolat pour que je sois capable de me lever aussitôt.
Te donner de la motivation, tout ça. Alors, ben oui, on accueille notre chroniqueuse Élisane Pellerin, qui vient toujours nous parler de la chronique handicap, professeure à l'Université du Québec. On est bien heureux d'avoir pendant la période estivale, hein, pendant qu'elle n'enseigne pas. Alors, c'est nous qui en profitons, hein, pas les élèves, pas les étudiants plutôt. Alors, voilà. Donc, ben oui, on parle d'un beau sujet, Élisane. L'art-thérapie, quand même non négligeable, et de plus en plus, les professionnels de la santé se penchent aussi sur l'art-thérapie.
Oui, la thérapie qui reprend un peu des lettres de noblesse, c'est-à-dire que de plus en plus on se rend compte dans les recherches universitaires et dans les recherches sur terrain que l'art thérapie est quelque chose qui peut aider les patients et qui peut aider plus largement les personnes avec des situations de handicap. Donc, ce que je vous ai trouvé cette semaine, là, c'est une académie des arts qui s'appelle Trouve ta voix, qui est située à Rosemère, qui est sur la rive nord de Montréal.
Bon, quand même, c'est pas trop loin de chez nous, ça.
C'est pas trop loin de chez toi qui habite la rive nord. J'habite aussi la rive nord. On est des Barres-de-Jardes. Donc, effectivement, c'est tout près de chez nous. Et voilà, c'est fait pour des personnes qui ont différentes déficiences intellectuelles ou physiques, ainsi que des déficiences auditives, des troubles du spectre de l'autisme, des déficits d'attention, de l'hyperactivité, entre autres. Donc, c'est fait pour toutes sortes de gens qui ont des différences et qui peuvent explorer les genres à travers leurs différences et en tout respect de leurs différences et qui peuvent trouver à la fois des façons de s'exprimer, mais aussi des loisirs et avoir un cercle social grâce à ça. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative pour, encore une fois, permettre l'intégration de ces gens-là et faire une intégration qui est positive et montrer que ces gens-là ont un potentiel, alors que souvent, on parle d'eux quand ça se passe mal, et on oublie de dire qu'il y a un potentiel, quelque chose de très positif autour de ces gens-là, et qu'il faut exploiter aussi ce positif-là.
Mais oui, absolument. Et puis ça, c'est vraiment, c'est non négligeable parce que vraiment, c'est, il y a beaucoup d'organismes maintenant. En fait, je pense, le Musée des Beaux-Arts qui fait beaucoup aussi en art-thérapie. Il y a également, on a parlé avec une de nos chroniqueuses de danse-thérapie, là, du côté des Grands Ballets canadiens, notamment. Alors, il y a toutes sortes d'avenues et l'Académie des arts Trouve ta voix, c'est une autre avenue, effectivement. Et là, sa mission, enfin, en tant que telle. D'abord, ça existe depuis combien de temps, à peu près, là, Élisane?
Ça existe, donc, depuis 20 ans, donc depuis le début des années 2000. On parle d'une initiative, là, qui est partie de Dream Academy, qui est un organisme en Turquie qui fait sensiblement la même chose, là, c'est-à-dire qui va donner des cours et des ateliers pour les personnes en situation de handicap ou les personnes avec une différence plus largement. Et donc, la fondatrice Joëlle Doré-Hébert, qui a vu cette initiative-là, qui s'est dit que ça manquait au Québec, et à ce moment-là, là, il y a quelques années, c'était tout nouveau. Maintenant, on le voit fleurir un peu partout au Québec, mais à ce moment-là, c'était manquant. Donc, elle s'est dit qu'elle allait ouvrir ça. C'est un organisme à but non lucratif, bien sûr. Et donc, elle a relevé ses manches, elle est allée chercher une équipe et c'est maintenant ouvert depuis quelques années. Et ça fonctionne bien. Ils donnent quand même des services très diversifiés. Ils ont beaucoup de clientèle qui est très, elle aussi, très diversifiée.
Ouais, c'est ça. Donc, ça fait vraiment, ça permet donc de développer des habiletés nouvelles. Et puis souvent, parce que je faisais moi ma petite recherche de mon côté. Et puis des fois, les parents surprotègent aussi, hein, les gens.
Oui,
qui
ont... ça arrive, hein. Ça arrive.
Alors c'est ça. Des fois, ils sont étonnés de voir même comment la personne peut se développer. Et puis, là, on parle de gens de tous âges, là, Élisane, quand même.
Oui, on parle de gens de tous âges, effectivement.
Pas juste de jeunes.
De jeunes enfants, bien sûr, mais aussi de personnes beaucoup plus vieilles. Hein. Si on parle, par exemple, des gens avec un spectre de l'autisme, par exemple, ou avec une déficience intellectuelle, bien sûr, les adultes peuvent être tout aussi socialement exclus de la société, même à un âge très avancé.
C'est vrai.
Et on peut essayer de trouver de nouvelles méthodes, hein, de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux centres d'intérêt pour ces gens-là, même à un âge plus avancé, parce que soit la condition change ou parce que, justement, on est toujours à la recherche de quelque chose qui fonctionne bien, qui aide la personne avec son nouveau potentiel. Il faut dire qu'avec les adultes également, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'après 21 ans, il y a beaucoup, beaucoup de services qui s'arrêtent.
Qui tombent, exactement.
Qui tombent pour les personnes avec des déficiences intellectuelles ou avec des troubles du spectre de l'autisme.
Et
c'est donc,
vrai.
C'est plus facile à ce moment-là de trouver d'autres services qui sont ouverts à ces gens-là. C'est une recherche qui est constante.
Oui. Alors, ben, on va continuer à en parler. On va parler des services offerts par l'organisme l'Académie des arts Trouve ta voix. On en reparle tout de suite après la pause, Élisane. À tout de suite. Et de retour avec Élisane Pellerin pour parler d'art-thérapie, un bon moyen finalement de développer tout notre potentiel. Enfin, pour les gens qui sont en situation de handicap, pour les gens qui sont différents, on peut parler aussi de gens en santé mentale. Hein? C'est vraiment très utilisé aussi, Élisane. Hein?
Oui, c'est très utilisé. Ça donne beaucoup d'avantages, en fait. Hein? Et il y a quelque chose que j'ai eu qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que ça donne un choix aux personnes, soit aux personnes en situation de handicap, soit aux personnes qui sont hospitalisées. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas le choix sur leur propre corps, ils n'ont pas le choix sur les décisions de la vie. Hein. Ils sont un peu pris à la merci du personnel médical, même pour les personnes en situation de handicap à la maison. Hein. Ils ont des infirmières et tout ça qui viennent à la maison. Donc, ils sont un peu pris par les horaires des autres. Et on peut, de façon de faire des choix dans la vie. Donc, ça a l'air tout à fait ridicule, mais pour eux, d'être capable de faire des choix, de choisir leur façon de s'exprimer, de faire des choix de couleurs, des choix d'œuvres, ça fait une grande différence. Ça leur redonne un espèce d'autonomie, un espèce de pouvoir sur leur vie qui n'est pas négligé. On n'y pense pas quand on n'est pas dans cette situation-là, mais bien sûr qu'à un moment, pour un adulte, d'avoir si peu de choix dans sa vie et d'être à la merci de tout le monde, le fait de pouvoir prendre des crayons ou des pinceaux et de faire les choses à sa façon, à lui, sans devoir s'arrêter à la façon des autres, ça peut être très, très libérateur pour sa santé mentale, pour sa santé physique également. Donc, c'est une des nombreux bienfaits pour l'art-thérapie et évidemment, il y en a d'autres.
Effectivement, ça peut être à l'infini parce que ça fait partie de la communication et on sait que parfois, c'est ça qui manque un petit peu, l'aspect communication.
Oui, pour certains d'entre eux, la communication n'est pas la même que la nôtre. Donc,
exact.
Ils communiquent très peu. On peut une moyenne de communiquer. Donc, ça devient une façon de communiquer, entre autres, de gérer l'anxiété, de gérer le stress, d'augmenter la confiance en nous et aussi pour des personnes qui ont des problèmes moteurs de faciliter la motricité. Hein. Donc, la motricité fine, c'est quelque chose qui est à développer pour plusieurs personnes. Donc, de prendre des pinceaux, de faire du dessin, tout ça, c'est une façon de faire des exercices sans s'en rendre compte.
C'est vrai.
Qui est beaucoup moins ennuyeuse que de faire des exercices avec une physiothérapie, de faire les mêmes mouvements. À répétition pour un enfant et même un adulte, ça peut être demandant et assez ennuyant. Donc, c'est une façon de faire de la motricité qui est plus agréable.
Mais tout à fait, tout à fait. Et puis bon, les services que l'organisme, on parlait de l'Académie des arts Trouve ta voix, qui donne depuis, j'apprenais que ça faisait quand même une bonne vingtaine d'années là, qu'on offrait ces services-là. Donc l'art-thérapie, c'est pas nouveau, hein? c'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis fort longtemps, même si des organismes l'ont intégré, que ce soit des musées, que ce soit différentes institutions comme ça qui l'ont intégré dans leur dans leur service,
dans leur
c'est ça, dans leur pratique courante. Mais les services plus spécifiques là, qu'on offre du côté de l'Académie des arts Trouve ta voix.
Du côté de l'Académie des arts Trouve ta voix, qui est située donc à Rosemère, on parle d'ateliers d'exploration qui sont vraiment des ateliers sur un court moment de quelques semaines pour voir si on a un intérêt ou pas. Hein? C'est le début.
Oui, il faut quand même commencer à quelque part.
Il faut commencer à quelque part. Et par la suite, on a des ateliers de perfectionnement pour ceux que ça intéresse, donc ceux qui ont eu envie d'aller un petit peu plus loin. On a des répits de jour. Hein? Donc, on va porter à personne qui a une différence, que ce soit intellectuelle ou physique, pour que les prochains ans puissent se reposer. C'est aussi un service qui est très, très en demande au Québec. On a des ateliers en art visuel, donc entre autres avec de la peinture, mais aussi pour faire de la gravure, par exemple. On a des cours privés qui sont adaptés aux besoins de chaque personne, qui peuvent être utiles pour des personnes qui ont des besoins très, très spécifiques. On a des ateliers dans les écoles, entre autres avec les élèves qui ont des difficultés ou qui sont dans des kiosques spécialisés. Hein, on peut voir ça avec eux. On a des cas artistiques, donc par exemple des cas d'été. Lorsque l'école se termine, je le disais tout à l'heure, hein, il y a peu de services pour pallier à l'école. Donc, les étudiants, les élèves qui ne sont plus à l'école se retrouvent à la charge des parents l'été. Pour un parent ou deux parents qui travaillent à temps plein, ça peut être difficile avec un enfant qui ne peut pas se garder seul. Et de trouver un endroit qui est adapté à ses besoins peut être difficile. Donc, on a ça au niveau de l'Académie Trouve tes genres. Et on a la Ruche d'or qui est un atelier où on peut explorer différents matériaux avec des animateurs spécialisés et aller voir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas et qui fait vraiment l'exploration de différentes matières au travers les ateliers à chaque semaine.
Ah, ben ça, c'est très intéressant. Et ben justement, on parlait tout à l'heure, je faisais mention, bon, je parlais des parents. Bon, évidemment, là, c'est souvent ouvert à des gens de tous âges, là. Mais dans le cas d'enfants ou du moins peut-être d'adolescents aussi, bon, des fois, les parents sous-estiment la capacité de leur enfant à se développer et avec l'art-thérapie, ils sont eux-mêmes surpris du résultat.
Oui, ben en fait, ce qui se passe avec les parents, et je parle de ma propre expérience et de ce que j'ai pu moi-même voir là, autour de moi, c'est que les parents sont tellement habitués à faire les choses pour l'enfant et de prendre les devants pour donner le service et qu'ils oublient en fait que l'enfant a une autonomie à développer et c'est pas du tout pour mal faire, hein. Ils sont habitués de faire ça depuis qu'enfant est petit, à pallier ses difficultés depuis qu'il est petit. Et donc, à un moment, on oublie hein, que l'enfant doit développer son propre autonomie parce que ça fonctionne bien. On est un noyau, un duo où on a nos habitudes et on fait les choses d'une certaine façon. Et on oublie. Et souvent, on n'a pas le temps non plus de laisser l'enfant faire les choses par lui-même. Un enfant, par exemple, qui a une déficience physique, qui s'habille seul, ça peut prendre 2 ou 3 fois plus de temps. Il faut avoir ce temps-là.
Oui,
Des fois, on ne l'a pas, on s'en va travailler, il faut aller vite.
On tourne les coins ronds parfois.
On oublie que l'enfant doit développer sa motricité, doit développer ses intérêts, doit développer des loisirs, mais on est tous pris un peu dans une espèce de but à quatre où on travaille, on arrive le soir, il faut faire à manger et tout, il faut que ça aille vite. Donc, développer des loisirs, c'est peut-être pas dans la liste de notre priorité, surtout que ces enfants-là ont beaucoup de rendez-vous médicaux, ont beaucoup d'exercices à faire et tout. Donc, la portion de loisirs peut prendre le bord assez rapidement.
C'est vrai.
C'est quelque chose pourtant qu'il ne faut pas négliger, mais il faut comprendre que si c'est difficile avec des enfants qui n'ont pas de différence, imaginez à quel point c'est difficile avec des enfants qui ont une différence, qui demandent encore plus de temps à leurs parents.
Oui, ça c'est bien dit, tout
donc,
à fait.
effectivement, là, qui demande beaucoup aux parents. Donc, c'est sûr qu'en fin de journée, là, développer des compétences en peinture, c'est peut-être pas la priorité.
Ah, c'est pas la priorité, t'as raison. Oui, c'est sûr.
Alors, moi, du moins, j'ai jamais beaucoup fait les miennes. Hein. Au niveau de la peinture, c'est encore à voir. Mais, bon, j'imagine que d'autres sont meilleurs que moi, mais c'est le genre de choses qui peut être difficile là, pour les parents. Puis les parents d'avoir un coup de main avec des gens
qui ne sont pas toujours eux-mêmes habilités.
Oui, il y a des gens qui connaissent ça, c'est ce que j'allais dire, hein, avec des gens qui connaissent ça, qui aiment faire ça, et puis qui donnent un répit aux parents, parce que des fois, juste d'avoir un répit un samedi après-midi où le parent n'a pas à être avec l'enfant et à s'en occuper et peut prendre du temps pour lui, ça fait une grande différence sur la santé mentale des personnes différentes,
de
mais aussi sur la santé mentale, voilà, des personnes qui sont des proches aidants, hein, ça peut être très difficile pour eux aussi. Donc, ce type d'activité-là bénéficie à tout le monde au bout de la ligne.
Eh oui, c'est ça. Puis il y a des gens bien formés, d'ailleurs, pour dans le cadre de ces organismes-là, notamment, on pense à l'Académie des arts, Trouve ta voix. Mais en fait, toi qui es professeur d'université, là, c'est sûr que là, il y a quand même des formations maintenant qui se donnent aussi en art-thérapie. Là,
oui.
C'est quand même assez récent,
j'imagine.
Oui, les
formations en art-thérapie, maintenant, la plupart des universités les donnent. C'est quelque chose qui souvent se fait soit au niveau du bac, au niveau de la maîtrise. On a aussi des maîtrises en art-thérapie. On a des doctorats maintenant en art-thérapie.
Ouais.
Et on a des programmes courts.
Perfectionnement, ouais. Comme par exemple un médecin pourrait
oui,
suivre.
Oui, un médecin un psychothérapeute, par exemple, ou on pourrait même passer à des ergothérapeutes ou à des physios. Il y a des programmes courts qui se font sur un an, par exemple des certificats qui permettent aux gens de pouvoir aller voir, explorer ce domaine-là et pouvoir ajouter leur thérapie à leurs soins et à leur méthode traditionnelle. Et on voit que l'art-thérapie ajoutée aux méthodes traditionnelles apporte quelque chose de plus, apporte, je le disais tout à l'heure, quelque chose de ludique. Ça fait changement, ça peut détendre l'atmosphère, ça peut faire en sorte que
ouais.
les soins passent mieux, ça fait moins
c'est
thérapeutique,
sûr.
Ça fait moins médical.
Exact.
Et donc, c'est plus facile avec un enfant qui peut devenir récalcitrant ou avec un adulte qui peut devenir récalcitrant parce qu'à un moment donné, les soins, ça fait mal, c'est pas le fun, on est tanné. C'est sûr que de mettre un peu d'or là-dedans, ça peut rendre ça plus joyeux et ça peut faire que le patient et la patiente coopèrent plus facilement aux soins. Alors, on se bat moins au bout de la journée et ça fait une expérience qui est beaucoup plus positive pour le patient et au bout de la ligne qui est beaucoup plus positive pour l'intervenant ou le médecin également parce que lui non plus n'a pas le goût de se battre. Là.
Non, c'est ça. Donc, dans les hôpitaux maintenant, la plupart des hôpitaux ont intégré
oui.
ce genre de pratique. Puis là, tout à l'heure, je parlais du Musée des Beaux-Arts qui a, je pense, engagé même quelqu'un à plein temps, là.
Oui.
À temps plein pour faire de l'art-thérapie. Alors,
les organismes communautaires
c'est
également
à tous les
sont
niveaux.
Rendus
oui.
très dans tout ça. On le voit vraiment, c'est ça, un petit peu partout, ça émerge parce que justement, ça donne de très, très bons résultats et l'art-thérapie ne coûte pas très cher. Hein. Quelques crayons, quelques pinceaux, un peu de peinture.
C'est pas là que ça se passe.
Il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais qui ont un certain coût et qu'on n'a pas les moyens dans le système de santé actuel ou
ouais.
dans les centres communautaires d'intégrer. Là, on parle de quelque chose qui s'intègre facilement.
Oui, ça peut être le mouvement, par le mouvement, tout ça. Puis il y a une guilde aussi des art-thérapeutes maintenant. Alors, franchement, c'est complet. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une pratique. Là. Ils ont un code de déontologie.
Oui, tout à fait.
Alors, tu sais, bon,
c'est des gens qui sont, tu l'as dit, qui sont très, très bien formés et qui savent ce qu'ils font.
Exact.
Donc, et plus la formation devient bonne, et plus on est capable d'améliorer les services qu'on rend. Donc, tant mieux. Plus on en parle, plus on connaît ça, et plus la formation et plus l'offre de services devient intéressante.
Tout à fait. Bon, ben écoute, je pense que c'est vraiment quelque chose à connaître et puis je pense qu'il faut s'informer un peu partout dans notre secteur. Bien sûr, là, on parlait de l'Académie des arts Trouve ta voix, ça c'est à Rosemère, mais évidemment, il y en a sûrement partout. Et puis, informez-vous au sein de toutes sortes d'organismes, d'institutions culturelles comme le Musée des beaux-arts qui fait des
oui,
miracles.
Oui, mais
et même
la
en
culture
ligne,
également.
Je pense même en ligne, vous pouvez avoir de l'info. Il y a des choses qui se passent hein, sur le site du musée. Enfin. Donc, ça amène évidemment pour tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit votre handicap aussi, que ce soit aussi des gens avec des problématiques de santé mentale. Alors, c'est vraiment à connaître, l'art-thérapie.
Oui, c'est vraiment une bonne voie pour faire changement et pour trouver des alternatives aux trucs qu'on fait de façon traditionnelle qui sont peut-être pas les meilleurs.
C'est ça. Merci, Lisanne. Ça a
Merci.
Été un très beau sujet encore. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Là, il en reste moins là, devant nous. Mais enfin, on va
c'est
en profiter
pas grave.
Jusqu'à la fin.
Voilà.
Merci, Lisanne.
Bye-bye.